Chapitre 83. Le lendemain de l'arrestation d'Oscar von Krutz sur l'île de Böllerön, de brèves délibérations se tiennent à l'hôtel de police sur Kungsholmen. Oscar est assis en silence, entre ses avocats, le regard tourné vers les grandes fenêtres. Le soleil apparaît derrière les nuages et fait scintiller les particules en suspension dans l'air. Comme de très loin, il entend le procureur demander sa mise en détention provisoire en raison de forts soupçons d'enlèvement, de tentatives de meurtre et de coups et blessures aggravés. Ce sont des accusations graves, mais il sait qu'il ne pourra être incarcéré que si le tribunal estime qu'il y a un risque de récidive, de destruction de preuves et de soustraction à la justice. Lorsque le tribunal annonce sa décision de le remettre en liberté dans l'attente d'une mise en examen, Oscar dissimule son sourire derrière sa main. Il devrait peut-être dire merci, mais les mots justes ne lui viennent pas à l'esprit et il suit passivement ses avocats vers la sortie. « Voilà qui est réglé, n'y pense plus maintenant », sourit l'un des avocats quand il s'arrête à la porte. « Merci, Jacob », répond Oscar d'une voix pâle, et il leur serre la main tous les deux. Le cabinet d'avocats a déjà préparé une ligne de défense pour qu'il soit acquitté de tous les chefs d'accusation si le procureur ne se laissait pas convaincre d'abandonner l'enquête préliminaire. Lors de leur première entrevue, l'avocat est venu avec un médecin qui lui a fait des prélèvements de sang, mais les 8 éprouvettes n'ont pas été envoyées à un laboratoire. Elles ne sont destinées qu'à démontrer la méticulosité de la défense au tribunal. Ils savent exactement quelles substances les maigres ressources du procureur seront capables de détecter et ils vont monter leur défense autour de celles que le ministère public aura manqué à coup sûr. Le fait que ces substances ne se sont jamais trouvées dans le sang d'Oscar n'a aucune importance. Le plan est de fabriquer une pathologie complexe pour laquelle différents médecins auraient prescrit des médicaments sans vérifier leur interaction. Les avocats savent qu'ils pourraient ainsi prouver que le désordre mental temporaire d'Oscar était le résultat d'une grave erreur médicale. Oscar ne prête aucune attention au procès. Il a payé pour être libéré puisqu'il ne peut pas rester dans une cage à attendre qu'on le tue. En détention, il n'aurait pas été en sécurité. C'est pourquoi il a l'intention de quitter le pays et de rester à l'écart aussi longtemps qu'il faudra à la police pour arrêter l'assassin. Or, Oscar ne sait pas que le chasseur de lapins le guette devant l'hôtel de police, qu'il le voit prendre congé de ses avocats. Il ne remarque pas qu'il est suivi, que quelqu'un marche à côté de lui dans le parc et l'entend appeler un taxi pour le terminal maritime de Silja Lines à Värtahamnen. Pendant le trajet vers le port, il réserve par téléphone un billet de croisière à bord du MS Silja Symphony. Il paie la course en espèces à l'arrivée, s'enregistre et monte à bord. Sa cabine est située tout à l'avant du navire, une suite avec un mur de verre incliné donnant sur la mer et le ciel. Il ferme soigneusement la porte à double tour, puis vérifie deux fois si c'est bien verrouillé. Dès son arrivée à Helsinki, il prendra le ferry pour Tallinn, où il louera une voiture, trouvera une pute et prendra la route avec elle vers le sud, à travers la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et jusque dans le sud de la Turquie. Là, il louera un appartement où il restera caché jusqu'à ce qu'il soit sûr de pouvoir revenir en Suède. Oscar se lève, ouvre le minibar et sort deux petites bouteilles de Ballantines. Il remplit un verre, se poste à la fenêtre et regarde la longue file de voitures qui monte lentement à bord du ferry. Les lapins sont des animaux nerveux. Ils se blottissent, restent absolument immobiles en espérant être invisibles. Mais ils s'affolent si le chasseur s'arrête soudain, à l'affût du moindre mouvement. C'est le silence qui les fait paniquer et courir, car ils pensent être repérés. Le chasseur de lapins descend dans le parking souterrain du Rådhusparken, ouvre le coffre de sa voiture, en veillant à ne pas être filmé par les caméras de surveillance, quand il prépare une valise cabine noire. Il y glisse des armes, des vêtements de rechange, des gants de vinyle, des lingettes humides, des sacs poubelles, du scotch, une chanfreineuse et un pied de biche spécialement conçu pour des portes de sécurité. Il quitte le parking avec la valise et marche jusqu'à la rue Flemingsgatan. Il prend un taxi pour l'embarcadère des ferries à Värtahamnen, où il achète un billet économique sous une fausse identité. On lui a donné une deuxième chance de neutraliser Oscar, mais il sait que les choses peuvent encore dérailler. Des paramètres imprévisibles peuvent surgir. Le plan est d'avoir le temps de quitter le ferry avant le départ, mais Oscar va peut-être se trouver parmi la foule dans un des restaurants à bord, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans ce cas, il le suivra en Finlande pour faire ce qu'il doit faire. Le chasseur de lapins a prévu d'éventrer Oscar et de dévider ses boyaux par terre devant lui. Ces 10 victimes doivent affronter leur sort en état de conscience. La comptine sert à les préparer. Dans la première phase, il veut que, au beau milieu de la douleur et de la peur, il conserve l'espoir de s'en sortir, qu'il lutte désespérément tout en réalisant peu à peu qu'en cas de survie, leur existence ne ressemblera en rien à celle qu'ils avaient avant. Ils comprendront qu'ils seront aveugles, mutilés ou paralysés. Ils vont quand même se cramponner à la vie jusqu'à ce que pendant la deuxième phase, ils comprennent qu'il n'y aura pas de grâce, que la douleur et la terreur seront les dernières sensations qu'ils éprouveront avant de mourir. Si le chasseur de lapins ne tire aucune jouissance de leur souffrance, il est toutefois empli d'une sensation aiguë de justice, et quand il meurt enfin, le monde devient totalement immobile, aussi silencieux qu'un paysage enneigé. Dans le terminal, il s'enregistre à une borne interactive, imprime sa carte d'embarquement, puis suit le flot de gens à bord. Le MS Silja Symphony est un navire de plus de 200 mètres de long desservi par 13 ponts. Avec ses près de 1000 cabines, il embarque plus de passagers que le Titanic. Le chasseur de lapins présente sa fausse carte d'identité avec le patronyme von Krutchen qu'il a choisi pour se retrouver près d'Oscar sur la liste des passagers. Quand on coche son nom, il repère le numéro de la cabine d'Oscar sur l'écran et va consulter le plan du navire. Puis il emprunte des escaliers pour descendre dans les locaux du personnel d'entretien situé juste au-dessus du niveau des voitures. Il dévale les marches et attend devant les vestiaires du personnel. Au bout de seulement une minute, une femme en sort. Il lui tient la porte et pour suggérer une sorte de légitimité quand il entre, il lui demande si Maria est là. Elle ne lui répond pas. Il dépasse deux hommes en train de suspendre leurs vêtements civils et il salue une femme qui écrit un texto. « Tu peux me prêter ton passe ?» demande-t-il. « Je vais en avoir besoin là, » répond-elle sans cesser d'écrire. « Je te le rends tout de suite, » insiste-t-il avec un sourire. « Demande à Ramona, » dit la femme en levant le menton en direction des toilettes. Sur le banc, devant les sanitaires, est posé un sac de sport gris et rose en simili-cuir. Il s'en approche, l'ouvre, sort un Tupperware rempli d'un casse-croûte, cherche parmi les vêtements et tâte le fond du sac pendant qu'on tire la chasse d'eau de l'autre côté de la porte. Il fouille rapidement les deux poches intérieures tout en entendant la femme se laver les mains et tirer des serviettes en papier. Dans une des deux poches latérales, il trouve le badge d'identité de Ramona et une clé magnétique universelle au moment où on tourne le bouton de la serrure des toilettes. À l'instant même où la porte s'ouvre, il se détourne, la carte à la main, et s'éloigne sans se presser. Il avait prévu de consacrer 15 minutes à essayer de se procurer une clé, il n'en a mis que 5. Le fait d'être dispensé d'utiliser les outils d'effraction qu'il a emportés lui donne davantage de temps en compagnie d'Oscar dans sa cabine. Sa valise à la main, il monte les différents niveaux par l'escalier feutré, délaissant les bars et les restaurants, la promenade avec ses boutiques duty-free, les couloirs qui s'ouvrent sur des salles de conférence, sur le casino et les machines à sous. Le pont supérieur, juste sous le solarium, a été baptisé d'après Mozart. C'est ici que se trouvent les suites les plus luxueuses. Une femme ivre sort d'une cabine et s'approche de lui en titubant. Pour plaisanter, elle lui barre le chemin dans le couloir, les bras écartés. « T'as l'air gentil, » dit-elle en pouffant. Tu ne veux pas venir avec moi dans ma cabine et m'aider? C'est comme si quelque chose se fissurait dans sa tête. Il sent un crépitement dans une oreille et tâte le mur à la recherche d'un soutien. Il se souvient de ses pleurs quand il clouait des déchets d'abattage autour de la porte, à côté des lapins en décomposition. Il répétait en chuchotant « Comme ça, ils ne vont plus nous embêter ». Le chasseur de lapins sourit à la femme quand il la dépasse. La sueur coule dans son dos et il pense tout à coup à la chaleur du fauteuil roulant en flammes. Il était allé chercher le bidon d'essence dans la remise à outils et avait trouvé la boîte d'allumettes dans un tiroir de la cuisine avant d'actualiser le statut de Nils Gilbert sur Facebook avec une lettre de suicide. Il était sorti asperger l'homme d'essence et lui avait raconté pourquoi il allait mourir ce matin-là avant de jeter l'allumette sur ses genoux. La chaleur l'avait fait reculer. Il avait entendu le hurlement que poussait Nils Gilbert et observé le corps tressaillir dans les flammes avant de se ratatiner et de noircir. Tout le monde savait que l'homme était seul et dépressif. La police ne ferait pas le lien entre son suicide et les autres décès. Le chasseur de lapins s'arrête à l'avant du navire devant la porte d'une suite portant l'étrange nom de Nannerl. Il entend des voix derrière lui quand il enfile une paire de gants en vinyle, introduit le passe dans le lecteur de cartes, entre dans la cabine et referme silencieusement la porte derrière lui. Il pose sa valise dans l'entrée et l'ouvre, sort un sac en plastique taché de sang, défait le zip de fermeture et en extrait le bandeau de cuir auquel sont attachées 10 oreilles de lapin.